Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute.
Bonjour Nicolas et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à mieux comprendre comment l'IA générative peut aider à accélérer la transmission du savoir et la montée en compétences dans les organisations. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à créer ou co-créer une entreprise produit basée sur l'IA générative?
Alors, je ne vais pas te faire tout mon CV, mais je peux te raconter un peu l'histoire et le fil rouge central qui a fait jusqu'au moment où j'ai lancé Madeleine. En fait, depuis vraiment longtemps, je ne saurais même pas te dire depuis quand exactement, mais j'ai cette impression qu'à chaque fois que j'ai un problème, quelqu'un l'a déjà eu avant moi. Et je me dis que je pourrais gagner du temps en utilisant leur expérience. Utiliser l'expérience des gens qui ont déjà eu ce problème-là. Et donc, depuis que j'ai 15 ou 16 ans, je lis énormément de livres de business, d'histoire. Plus récemment, j'ai commencé même des livres de philo. Et ce que je fais qui est un peu particulier, c'est que toutes ces expériences que je récupère au fil de l'eau, je les stocke dans une base de données. Et ça va de pourquoi les hackers nigérians font des fautes dans leurs emails, l'histoire des mercenaires suisses, pourquoi le don du sang en Suède, ils t'envoient un SMS quand ils utilisent ton sang. J'ai tout ça dans cette base de données. Alors, la base de données, elle a beaucoup voyagé. Au début, je l'avais sur Dropbox, puis sur Evernote, puis Curio, puis Obsidian, puis Note. Et là, en ce moment, c'est plutôt sur Replit, parce que je m'en sers avec de l'IA, bien sûr. Et donc, ça, c'est le fil rouge. Et pour en revenir à l'histoire, début de carrière en finance, c'était pas ma passion, donc j'ai arrêté assez vite. Et j'ai eu la chance de rejoindre une boîte qui s'appelle Wild is the Game, qui organise des workshops pour Comex et top dirigeants du CAC 40. Et là-bas, j'ai pu commencer à confronter ma base de données et toutes mes expériences avec le vrai monde. Et j'ai eu de la chance, parce que si j'avais rejoint une boîte de conseil classique, à 27 ans, j'aurais été dans la cave en train de faire des slides et j'aurais jamais vu un client. Mais là, c'était une plus petite boîte et je bossais avec Julien Gobi, le fondateur de Wild, et il m'a fait confiance. Je suis devenu associé et à 27 ans, je me suis retrouvé face au Comex d'AXA, de Veolia, et à me balader dans la pièce. Et juste, mon rôle, c'était de dégainer les idées de ma base de données et de les challenger avec. Et donc, c'était vraiment les années que j'ai passées avec Wild, c'était vraiment une expérience fondatrice pour moi. Ensuite, j'ai lancé ma boîte de conseil en solo. Donc ça, c'était il y a 4 ans, où je bossais avec des CEO. Mais j'accompagnais toujours les CEO avec cette idée d'extraction d'expérience. J'utilisais des livres de Nassim Taleb, Peter Drucker, tout ça. Mais aussi, je prenais des experts, donc je prenais des militaires, des historiens, des PhD, et par exemple, j'ai beaucoup bossé avec le colonel Goya et le général Desportes. Et je les faisais travailler, j'allais extraire l'expérience qu'il y a dans leur cerveau, et je la mettais au service de mes clients. Et donc là, ma base d'expérience, elle a fait que grossir. Et en fait, je disais même à mes clients que je faisais un MBA, mais c'est eux qui payent. Et donc, ce qui est plutôt un bon deal. Et l'an dernier, ce qui a amené à la création de Madeleine, je travaillais avec Fabien Trier, qui est le CEO de Cali Group, et on a parlé d'une idée qu'on aurait pu mettre en place pour sa boîte. En gros, c'est un système qui permet d'extraire de l'expérience et ensuite l'injecter là où il y en a besoin. À la base, l'idée c'était de faire vite monter en compétences des ingénieurs qui rejoignent une équipe, parce que lui, c'est le cœur de valeur de sa boîte. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que le potentiel était beaucoup plus large que ça. Et donc, on a lancé Madeleine pour faire ça à grande échelle, et le cœur n'est pas forcément l'IA, mais l'IA est au cœur de tout, et sans l'IA, on ne pourrait pas faire une boîte qui fait ça.
Merci pour ce rapide aperçu. C'est vrai que moi, je t'avais rencontré quand tu travaillais, alors je sais, peut-être chez Wild, parce que j'avais vu ce que vous faisiez déjà. Je me rappelle, j'avais vu un truc que vous avez fait pour expliquer la blockchain de manière intuitive, et franchement, j'avais déjà pas mal accroché avec ce que tu faisais. Je suis content qu'on puisse en échanger aujourd'hui. Tu parlais de la boîte que vous avez montée, donc Madeleine, qui s'appelait jusqu'à assez récemment Marie-Madeleine, qui est la sainte patronne des compagnons. Et j'aimerais bien te poser une question là-dessus, parce que j'ai l'impression que tu parlais de fil rouge tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez puissant chez toi, cette question du savoir, d'essayer de comprendre, d'essayer de transmettre, d'essayer de challenger un peu ce que tu apprends, ce que tu vois. Et dans le compagnonnage, il y a cette question, cette notion de comment tu accompagnes quelqu'un à monter en compétence via l'expérience et où tu confrontes les choses. Comment justement cette question du compagnonnage, qui encapsule aussi la notion de perfectionnement, de montée en compétence et de transmission de pair à pair, influence un petit peu la vision que vous avez de votre produit et la manière dont vous le développez.
Effectivement, ça s'appelait Marie-Madeleine, ce qui était peut-être un peu trop dans un univers religieux. Moi, c'est pas tellement l'univers dans lequel j'ai grandi, donc ça me choquait pas, mais il y a des gens qui étaient un peu touchés par ça. Donc on a basculé sur Madeleine. On garde toujours le petit clin d'œil au compagnonnage par rapport à ça. Mais en fait, la discussion avec Fabien, une fois qu'on s'est dit, OK, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus large à ça, un peu plus large que juste l'utiliser pour lui, pour sa boîte, on a commencé à en parler à des clients à lui, à des CEO que moi je connaissais. Et en fait, l'expérience, elle est au cœur du sujet parce que les CEO voient le niveau d'expérience qui baisse parce qu'il y a plus de turnover, surtout depuis le Covid, etc. Les experts internes, ceux qui ont vraiment l'expérience, ben, ils sont trop sollicités, donc il y a moins de transmission. Donc, pour compenser la baisse d'expérience, on met en place plus de process, plus de rigidité. Sauf que quand il y a plus de process, les gens, ils développent moins leur expérience. Donc, il y a plus de conneries. Donc, il faut mettre plus de process. Et c'est une spirale vers le bas infinie. Et donc, c'est ça, le sujet de l'expérience, il est vraiment au cœur. Donc, le modèle que nous, on a vu qui pouvait casser ça, c'est le modèle qui existait avant, c'est le compagnonnage. D'où le clin d'œil à Madeleine par rapport à ça. Sauf que le compagnonnage, alors déjà, ça existe presque plus, en tout cas, c'est assez rare, il y en a encore un peu dans la construction, mais le vrai compagnonnage, c'est un ratio de un expert pour un jeune. Et ça, c'est plus possible. Il n'y a plus aucune boîte qui peut mettre ça en place. Donc, nous, c'est une forme de compagnonnage moderne. On capte l'expérience de la boîte et on va l'injecter là où ça va avoir de l'impact. Par exemple, pour aider les boîtes à gagner des appels d'offres en allant chercher dans toute leur expérience interne quel est le bon angle. Donc, c'est une forme de compagnonnage, mais c'est plus un pour un, c'est tous les experts pour tous les jeunes et même les experts pour eux-mêmes.
J'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans la technique, un petit peu tu parlais d'être dans la soute tout à l'heure. Moi, en tout cas, ce que j'ai compris de ce que vous faisiez, comme ça tu me diras si j'ai compris ou pas, c'est que vous créez une sorte de jumeau numérique des experts, des sachants, en injectant dans un LLM leur expertise, leur expérience. Déjà, est-ce que tu pourrais donner ta définition de expertise vs expérience, parce que c'est quand même un petit peu différent, et aussi peut-être en préciser comment vous faites concrètement pour capter ce vécu des experts, ce qu'ils ont à transmettre. Je sais qu'en préparant, tu parlais d'entretien, de cas concrets, mais j'aimerais bien que tu puisses un petit peu décrire ça. Et après, les intégrer dans ce système, sachant que, si j'ai bien compris, le LLM, il fonctionne de manière probabiliste. Donc, potentiellement, on ne va pas forcément retrouver à 100% l'expérience, l'expertise telle qu'elle a été entrée en sortie.
Moi, je suis un vilain petit canard, parce que tu me dis, définis expertise, expérience et tout. J'utilise ça de manière un peu interchangeable, alors qu'en vrai, les puristes diraient, en fait, l'expertise, c'est une collection d'expériences et le fait aussi d'avoir un modèle qui peut prédire. Mais moi, j'utilise ça, je dis voilà, un expert, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Mais non, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui peut se servir de cette expérience pour prédire les effets sur le système. Mais moi, je pense que la notion la plus importante pour bien comprendre ce qu'on fait et pour bien comprendre comment l'IA fit là-dedans, c'est la notion de data versus expérience. Parce que la data, c'est des bouts de papier, alors que l'expérience, c'est des bouts de vie. La data d'un projet, c'est les 300 slides et les 600 emails. L'expérience du projet, elle tient dans une feuille A4. Et c'est un peu, et je t'ai dit tout à l'heure que je bossais avec des militaires, c'est un peu le compte-rendu de fin de mission militaire. C'est répondre à la question, si je devais revenir dans le temps et recommencer ce projet de zéro et qu'on m'efface la mémoire, qu'est-ce que je me noterais comme leçon sur une feuille pour que ça soit 10 fois plus facile? Et c'est ça l'expérience. Et c'est ça qui est beaucoup, beaucoup plus puissant que la data. Parce que si tu regardes bien de la data, on en a, allez, 1000 fois plus qu'il y a 30 ans. Mais est-ce que les boîtes, au fond, elles ont vraiment changé? Est-ce que le cœur de ce qu'elles font a changé? Pas vraiment. Alors que si tu demandes à n'importe quel CEO, si dans ta boîte, les équipes, elles avaient accès à 10 fois plus d'expérience, si quand tu fais une propale, tu avais les échecs et les succès des 1000 propales précédentes, si quand tu vas travailler sur le compte d'un client, c'est comme si tu l'avais déjà fait 100 fois. Si quand tu prends une décision majeure de réorg ou de... Tu avais l'historique des 100 décisions similaires de ta boîte ou même de l'extérieur. Ben ça, ça changerait tout. Et le problème avec l'expérience et avec l'expertise, parce que j'utilise un peu de la même manière, le problème, c'est que c'est une matière première qui est hyper puissante, mais qui est instable et inflammable presque. C'est très dur de la capter parce que les gens y résistent. Et même quand ils résistent pas, si tu parce que ça, j'en ai fait beaucoup ces derniers mois. Quand tu parles à un expert de pourquoi est-ce que c'est un expert et pourquoi est-ce qu'il réussit, il va te dire un truc pas faux. Et alors, parfois faux, il va pas le faire consciemment, mais il se rend même pas compte, en fait. Donc, c'est dur de l'extraire. C'est dur de la stocker. Et c'est pour ça que tu as déjà été impliqué dans des projets comme ça, j'en suis sûr, mais tous les projets de base de connaissances internes, ils se plantent. Et c'est dur de s'en servir, même si tu as réussi à la stocker, à la capter. Et nous, c'est ces trois problèmes-là sur lesquels on a travaillé, c'est ces trois problèmes-là qu'on a réussi à craquer. Et c'est pour ça que les clients à qui on parlait au début avec Fabien, ils disaient tous, ce que vous voulez faire, on pense que c'est impossible. Mais si vous y arrivez, on va l'acheter direct. Et ça, c'est la meilleure phrase à entendre quand tu lances une boîte, c'est de te dire, OK, c'est impossible, mais si vous y arrivez, je vous le prends direct. Donc, voilà pour l'intro sur ça. Pour répondre concrètement à ta question de comment on capte l'expérience. Alors, déjà, l'expérience, on la repère, on la détecte en utilisant les documents, en utilisant la data. Parce que la data, elle ne contient pas l'expérience, mais elle contient des traces de l'expérience. Donc, par exemple, je suis une boîte qui a lancé un produit en France. Le produit cartonne. Je veux lancer la même chose dans d'autres pays d'Europe. Et pour ça, je veux utiliser l'expérience de la France pour que le lancement en Italie, il soit 10 fois mieux, 10 fois plus rapide. Et pour ça, j'ai besoin de capturer l'expérience des gens qui ont bossé sur le projet. Et donc, j'utilise la data, j'utilise les mails, j'utilise les slides pour savoir à qui je dois parler, qui sont les 20 personnes qu'il faut débriefer. Ensuite, une fois que j'ai repéré qui sont les gens à qui je dois parler, je vais aller capter leur expérience. Et nous, on a notre méthode de débriefing des gens. En gros, on mélange débriefing militaire, cognitive task analysis, des techniques de simulation. Et tout ça, on le met ensemble. Et c'est des techniques qui ont 100 ans, même plus pour le débrief militaire. Mais elles prennent tellement de temps à préparer si t'as pas d'IA que presque personne s'en sert. Et surtout que cognitive task analysis, c'est une tannée. Mais tout d'un coup, avec l'IA, tu te débloques ce qui aurait pris 6 heures à préparer comme conversation parce que il faut se plonger dans le monde de l'expert et tout. Ben, tu peux le préparer en beaucoup moins de temps. Et ensuite, alors ça, c'est quand on fait du débrief one-on-one, certains clients, une fois que c'est lancé, ils veulent un truc qui va scaler. Donc pour ça, on utilise un appareil qui s'appelle Plod, qu'on distribue aux experts et avec lequel ils peuvent enregistrer directement les conversations qu'ils ont sur le terrain et qu'ils puissent s'enregistrer en live hyper facilement. Et sinon, il y a aussi des clients avec qui on utilise les juniors. Ils ont des jeunes. Et c'est un super exercice pour eux d'ailleurs pour apprendre. Et c'est eux qui vont interviewer les experts pour faire ça. Et une fois qu'on a capté cette expérience, là, on se sert de l'IA pour l'exploiter.
Alors, je comprends bien la façon, enfin, en tout cas au niveau macro, sur la façon dont vous allez capter, on va dire, cette expérience, sans dévoiler de secrets industriels, mais comment se passe ce passage de on a récupéré ça dans une base de données ou autre, parce qu'il faut bien le formater d'une manière que la machine va comprendre. On a donc toute cette matière grise qu'on a extraite. On va vouloir injecter dans Madeleine, dans l'outil. Comment vous faites ça? Est-ce que c'est une méthode classique qu'on peut voir avec on va chunker le texte, on va le transformer en vecteur, on va le mettre dans une base de données, et après on va comparer en fonction de la question qui est posée par l'utilisateur dans la plateforme? Ou est-ce que vous, enfin, et donc globalement, vous faites un peu comme d'autres gens font, sauf que votre spécificité, c'est particulièrement en entrée dans la façon dont vous allez récolter le savoir et peut-être dans la façon dont vous orientez la façon dont il va répondre aux questions et mobiliser l'expérience qu'il a emmagasinée. Ou est-ce que vous adoptez une approche radicalement novatrice, on va dire?
Non, la vraie innovation, elle est sur le fait d'utiliser l'expérience au lieu d'utiliser la data comme nourriture de ton LLM. Et l'outil, il a beaucoup changé, l'outil presque, je dirais, peu importe. Et tu parlais d'hallucination et de probabiliste tout à l'heure, et je pense que c'est un truc intéressant, c'est nous, il est ancré dans la réalité, grâce à l'expérience. Il y a 3 mois, on utilisait un RAG simple. Alors, je sais pas, est-ce que tu veux que je résume en 2 secondes ce que c'est un RAG?
Je veux bien parce que j'ai discuté avec ma femme qui est data scientist et je lui ai dit ce que je pensais être un RAG et elle m'a dit non, t'as rien compris Clément. Donc je veux bien que tu m'expliques.
De ma vision de pas chercheur, pas data scientist. Le cœur des LLM, c'est la vectorisation. C'est de transformer une phrase ou un paragraphe ou un texte complet en vecteur. Mais attention, c'est un bon gros vecteur avec 3000 dimensions. Et ce vecteur, il porte le sens du texte à l'intérieur de lui. Et donc, j'ai une base de données Mais au lieu d'avoir des mots dedans, j'ai des coordonnées de vecteurs. Par exemple, moi, j'ai une base vectorielle qui contient la bio de tous les auteurs que j'ai lus. Et Sheryl Sandberg versus Nassim Taleb versus tout ça. Et donc, quand je ne sais pas trop vers qui me tourner, je rentre ma question, ça transforme ma question en vecteur et ça va chercher le vecteur le plus proche. Et en cherchant le vecteur le plus proche, vu que tout porte le sens, ça me dit quel auteur pourrait avoir des choses pertinentes à dire sur mon problème. Donc, pendant longtemps, on a utilisé du pur RAG pour explorer les expériences. On chargeait toutes les expériences dans une base de données vectorielle et on allait chercher quelles expériences étaient pertinentes pour répondre à telle ou telle problématique. Mais maintenant, tu veux presque, tu as des modèles Gemini de Google, il a 2 millions de tokens en contexte. Donc, tu n'as presque plus besoin de faire du RAG, tu peux directement presque tout rentrer dans ton prompt. Donc, ce serait une possibilité aussi. Mais nous, ce qu'on fait principalement, c'est du graph RAG, c'est du RAG, mais qui va chercher pas juste des expériences isolées, mais qui va chercher aussi le contexte qu'il y a autour. Voilà, donc c'est ça l'outil. Ça change tous les mois, donc je ne veux pas te dire un truc qui va périmer. Mais voilà, le plus important, c'est d'utiliser cette matière première de l'expérience pour répondre aux questions.
Et une dernière question sur ce sujet-là. Tu disais, ce qui fait la différence dans le produit que vous développez, c'est que vous appuyez pas sur de la data, mais sur de l'expérience. Pour autant, cette expérience, pour qu'elle soit compréhensible, utilisable par la machine, elle est transformée en data. Tu parlais de vecteurs. Comment justement tu fais, ou vous faites, ou vous réfléchissez au problème de se dire, bah, on considère que pour que ça soit efficace, il faut que notre outil se base sur de l'expérience et pas sur de la data pure. Et donc, on essaie d'injecter cette expérience. Pour autant, pour que ça soit utilisé par l'outil, il faut que ça soit de la donnée. Et donc, comment on ne perd pas la qualité de ce que vous avez récolté en transformant cette expérience en data intelligible par la machine ?
Tout est de la data. Si on se parle entre nous, c'est un flux de data. Ce que je veux dire quand je dis data versus expérience, c'est la data, c'est voilà les 300 slides d'un projet. Et ça, c'est pas que ça sert à rien, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça parle beaucoup moins que l'expérience qui est un extrait de ça, qui est la leçon humaine. Et c'est juste que nous, ce qu'on fait, c'est que l'expérience, pour l'instant, le problème avec les LLM, je pense, c'est qu'ils n'ont pas été entraînés sur l'expérience. Parce que l'expérience, elle n'est pas dispo, elle est dans la tête des gars, il faut aller la chercher à la main. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et bien sûr qu'une fois que tu l'as extraite, bah, tu ne peux pas la stocker. Je veux dire, on n'est pas des bardes, on n'est pas en train de chanter les histoires de nos clients, à notre truc. Donc, bien sûr qu'on la stocke dans une base de données, qu'on transforme en vectorielle. Mais ce qui compte, c'est de garder la forme de l'histoire. Parce que les humains, c'est comme ça qu'ils communiquent. Si tu regardes les US Marines, quand ils font le camp d'entraînement pour les officiers, je crois qu'il y a, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 30 ou 40% du temps qui est dédié à « on se raconte des histoires ». C'est tout le monde s'assoit, et au lieu de te dire « ben voilà, si votre vaisseau est attaqué par des pirates, vous devez faire ça ». Et en fait, ils racontent, au lieu de raconter de la théorie, ils racontent des expériences. Ils disent « ben voilà, moi j'étais à tel endroit, on était sur tel type de bateau et on s'est fait attaquer comme ça. Voilà comment on s'est défendu, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on aurait dû faire, voilà ce qu'on a fait. » Et donc, ce qui compte, c'est pas tellement est-ce que c'est en data, est-ce que c'est en vecteur ou pas, c'est est-ce que c'est une histoire qu'un humain pourrait raconter à un autre humain. Parce que c'est ça, en fait. La puissance du truc, c'est j'ai les expériences, j'ai les histoires de ma boîte, je les ai captées, et quand j'en ai besoin, on me les raconte. Juste à ce moment-là.
Tu me disais dans notre échange là avant l'entretien que bah toi tu préconisais plutôt l'utilisation de l'IA seulement pour des décisions importantes que tu appelles les décisions à 1 million d'euros et que tu as l'impression qu'en tout cas on utilise un peu l'IA pour tout et pour rien et que ça peut ralentir ou être contre-productif. Est-ce que tu pourrais préciser un peu ce que tu mets derrière ça et en quoi selon toi bah, on a tendance peut-être à utiliser l'IA pour les mauvais sujets ou des mauvaises décisions et que ça peut, d'une certaine manière, accélérer un peu le fait d'aller dans le mur ou faire perdre du temps ou de l'énergie plutôt que de se focaliser sur là où l'IA peut apporter vraiment de la valeur, en fait.
Alors là, tu me fais passer un peu pour un mec qui a vraiment des gros doutes sur l'IA, mais c'est pas le cas. Mais je vais t'expliquer. Je pense que le meilleur exemple, là, en ce moment, je bosse beaucoup sur les propositions commerciales, sur les propals. Là, il y a le marché qui se tend un peu. Tout le monde veut gagner plus d'appels d'offres, veut gagner plus de propales. Et je discute avec des boîtes de conseil, des boîtes industrielles qui ont des gros marchés. Et tout le monde leur pitch automatiser l'écriture de vos propales. Il y a plein de mecs qui lancent des solutions SaaS là-dessus et qui disent voilà, allez plus vite pour écrire vos propales. Et donc, les clients, ils se disent, moi, j'ai gagné 25% de mes propales. Là, j'ai moins de marché qui rentre. Je gagne plus que 10%. OK, je vais automatiser. Comme ça, je peux répondre à 3 fois plus et inonder le marché avec mes propales. Et ça, je pense que c'est une grosse connerie. Parce que si tu gagnes 10% déjà maintenant et que tu mets un bon LLM bien générique qui va écrire tes propales automatiquement, tu vas gagner 0%. Et ce qui m'énerve encore plus là-dessus, c'est que c'est une situation débile. Parce que toi, tu écris ta propale avec une IA. Ton client, il la lit avec une IA. Dans 6 mois, il va te dire, OK, envoie-moi le prompt, hein, parce que là, on dépense des tokens pour rien. Donc, moi, mon approche, c'est je pense qu'il faut faire l'inverse. Il ne faut pas automatiser avec une IA pour accélérer. Il faut ralentir. Moi, ce que je fais, c'est on utilise l'IA pour fouiller dans tes expériences, pour trouver l'angle gagnant, l'angle fort de la propale. Alors oui, tu passes 3 fois plus de temps à trouver le bon angle d'attaque, parce que là, ce n'est pas juste l'IA qui dit, OK, vu l'appel d'offres, voilà l'angle qu'il faut que tu utilises. C'est, voilà des angles possibles. Tu continues, t'en discutes en réunion, ensuite t'en choisis 3. L'IA, elle te crash test en disant, celui-là, je pense que tu vois, dans tel propal que t'avais fait pour telle boîte, ça n'a pas marché, donc c'est peut-être pas le bon angle. Voilà, tu prends plus de temps. Mais une fois que t'as perdu du temps au début, ensuite ta propal, elle va s'écrire facilement. Et dans 2 ans, quand les clients, ils vont te dire, OK, arrêtez de m'envoyer 200 slides écrits avec ChatGPT, envoyez-moi une page sur votre approche, envoyez-moi le prompt en gros, hein, parce que c'est ça qui va se passer. Ben toi, tu seras prêt, alors que les autres, ils sont tous en train de générer leurs 200 slides automatiquement, mais sans réfléchir. Et là, je t'ai donné l'exemple des propales, mais c'est vrai pour tout. Je n'ai pas encore trouvé un seul exemple où tu utilises l'IA de façon très générique. Et générique, ce que je veux dire, c'est sans mettre quelque chose de vraiment propre à ta boîte. Je n'ai pas trouvé un seul exemple qui a de la valeur. Une IA qui écrit des CV, ben c'est, dans ce cas, bientôt, on va dire, ben, envoie-moi le prompt. Une IA qui fait des slides, il y a des gens qui font ça, ils disent, OK, je prépare une présentation pour les gens de ma boîte, et ben j'écris un prompt et ça me fait les slides automatiquement. Ben les gens, ils vont dire, envoie-moi le prompt, arrête de m'envoyer ta salade qui ne me sert à rien. Alors que dès que tu utilises ton expérience, vraiment des trucs ancrés dans ta boîte avec l'IA, là, ça donne un contenu qui, toi, va te surprendre. Si le résultat de l'IA, il ne te surprend pas, ben ça n'a pas de valeur, ça ne va pas surprendre le mec en face. Ça ne va pas te différencier pour écrire ton appel d'offres.
C'est marrant ce que tu dis. Alors moi, je n'ai pas utilisé Madeleine, mais là, tu vois, c'est le 12e ou 13e entretien que je fais pour le podcast. Et alors, je ne le faisais pas avant, mais j'ai commencé à utiliser ChatGPT, notamment pour m'aider sur les trames d'entretien. Et donc, je lui fournis toutes les trames d'entretien, plus un prompt que j'ai. Et c'est vrai que si je coupe un petit truc, alors ce que tu appelles l'expérience, mais toutes les questions que j'ai posées, en essayant de lui expliquer ce que je cherche à faire, le fait que je cherche de la profondeur à vulgariser, plus donner éventuellement des contenus sur les personnes que je vais interviewer. Franchement, tu disais, si t'es pas surpris, c'est qu'il y a un problème. Je suis assez souvent surpris par la qualité et la pertinence des questions qu'ils me proposent par rapport à des trucs justement génériques que je pouvais avoir. Donc, tu parlais d'être surpris. Moi, ça m'arrive assez fréquemment d'être surpris là en ce moment.
Tout à fait. Et je pense que c'est la bonne façon de s'en servir. C'est que tu te dis, OK, si tu dis juste, voilà mon invité, fais-moi des questions. Il va te sortir des questions qui vont surprendre personne. Si par exemple tu le dis, voilà mon invité, voilà mon angle et voilà mes 12 derniers podcasts sur ce que j'ai fait. Trouve des questions dans mon style. Ou bien même tu peux prendre un contre-pied en disant, voilà, je sais pas, 10 000 pages écrites par Hemingway. Trouve des questions, les questions que poserait Hemingway à cet invité. Ça va donner de la valeur. Ça va sortir un truc parce que tu génères avec de l'expérience et tu promptes pas à sec. Ça c'est le truc moi qui me rend fou, c'est les gens qui s'en servent. Alors déjà, qui posent des questions des fois qui ont pas de sens en disant « Quel est le business model de Veolia ?» Mais ça, c'est Google, ça. T'as pas besoin de ChatGPT pour faire ça. « Quel serait le business model de Veolia s'il n'y avait pas de gravité ?» Là, ça, c'est intéressant. Là, tu peux utiliser un LLM. Mais surtout, c'est de prompter toujours avec beaucoup de contenu à toi. Parce que comme ça, c'est ancré dans ton expérience, ancré dans ton contenu. Et quand tu le lis, tu comprends d'où ça vient. Tu comprends la source. Tu ne dis pas juste « Il y a un truc random qui m'est tombé dessus. »
J'avais une dernière question. T'as déjà abordé les aspects un petit peu techniques de la façon dont vous procédez. Donc là, peut-être orienter plus la question sur ton retour d'expérience sur le sujet. Mais avec les invités que j'ai pu avoir et puis d'autres discussions, le sujet des hallucinations d'LM revient souvent comme un frein, on va dire, à l'adoption ou à une vraie utilisation professionnelle. Tu vois, j'ai ce cas en tête, je t'en avais peut-être déjà parlé d'un compliance officer qui travaille avec des boîtes et il se dit, moi, en fait, j'ai beaucoup d'expérience. Tu parles d'expérience à partager, beaucoup de connaissances. J'ai un contexte réglementaire qui est connu, que je peux intégrer éventuellement dans un outil. Plus, j'ai un set de questions-réponses fréquentes où, en fait, souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent. Et moi, j'aimerais pouvoir me focaliser sur accompagner mes clients vraiment sur des choses là où ça a du sens et pas forcément répéter la même chose comme un perroquet. Et pour donc, il se dit, là, moi, je sens bien qu'un outil, et en plus, j'entends parler de l'IA partout. On me dit, l'IA, c'est génial, il faut que tu l'utilises. Donc, il se dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Pour autant, il me dit, moi, là, le critère numéro un, c'est que je veux être sûr que cet outil-là, il ne va pas raconter des conneries ou que si ce n'est pas, il ne va pas inventer des choses. Parce que moi, on va dire, la valeur numéro une ou ce qui fait que j'ai du business, c'est que les gens me font confiance et ils se disent que quand on va me poser une question, je ne vais pas raconter des conneries. Et donc, je me pose la question de est-ce que c'est possible, tu vois, et par rapport à ton expérience, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans des contextes similaires où tu as un besoin d'être sûr à 100% de ta réponse, ou en tout cas, d'être sûr que soit il a la réponse, soit s'il n'a pas la réponse, il va te le dire, mais qu'il ne va pas inventer une réponse comme c'est le cas des LLM, tu vois.
Alors, oui, on a ce contexte-là, parce que tu ne veux pas que le truc il raconte n'importe quoi. Après, ce qu'on a par rapport à la situation que tu décris, qui est un avantage pour nous, c'est que on n'a pas... l'expérience, on l'injecte toujours dans le cerveau d'un humain. Et donc, c'est toujours filtré par quelque chose. Donc, s'il y a une énorme bêtise, l'humain va s'en rendre compte et donc ça va aller. Mais moi, je trouve que ce problème des hallucinations, si tu regardes ChatGPT 3.5, effectivement, il racontait n'importe quoi. Et il inventait tout ça. Déjà, c'est quand même beaucoup moins le cas maintenant. Et quand tu ancres tes questions, ton travail avec des grosses bases de données d'expérience, avec du RAG ou avec du GraphRAG, ou juste en mettant vraiment beaucoup de documents dans le contexte, il va aller chercher dans ce que tu lui as donné. Et il va te citer ce que tu lui as donné. Parce que tu peux le forcer à ça. Même si, pour les gens qui veulent faire un truc simple, tu utilises Notebook LM. Et là, non seulement il répond à tes questions en utilisant les documents, mais en plus, il te cite quel passage du document il a utilisé pour répondre à la question. Donc, moi, ce problème des hallucinations, je sais que c'est un gros truc, les gens en parlent beaucoup, mais j'ai peu de problèmes avec ça, en fait. Du moment que tu ancres avec ton contenu, ton contexte et tout ça, des hallucinations, il y en a très peu, parce qu'en fait, tu lui demandes pas, il invente la réponse, ou là, effectivement, il peut avoir des hallucinations. Moi, je m'en sers plus comme d'un assistant à qui je dis, tiens, voilà 700 pages de contenu, va me trouver l'information qui correspond mieux à ça. Et là, il va te le trouver, et il hallucine pas, parce qu'il va te la chercher. Après, il y a aussi des façons de prompter en disant, ok, si tu utilises seulement ce que je t'ai donné, et tout ça, mais moi, les hallucinations, c'est pas ce qui me fait peur.
Tu disais comment ça a transformé l'expérience, l'expertise, justement, une question un peu plus sur l'usage de l'outil. Je sais que vous avez plusieurs cas d'usage. Tu disais, par exemple, on a envie d'avoir accès, tu parlais de ton associé là, qui est CEO d'une boîte, on a envie d'avoir potentiellement accès à notre CEO plus facilement, avoir accès à son expertise, à sa façon de réfléchir, de penser, et de se dire comment lui répondra à telle question sans avoir forcément à le solliciter. Mais on peut aussi, en tant qu'expert, injecter son expérience et donc avoir une copie de soi-même d'une certaine façon. Comment ça impacte un petit peu les pratiques de travail et quelles sont aujourd'hui, alors vous avez commencé à bosser avec des clients, un petit peu les transformations, les impacts sur les organisations que vous observez?
Déjà, tout à l'heure, tu parlais de créer des jumeaux numériques et tout ça. Ce n'est pas le but, parce que déjà, ça serait très compliqué. Et en plus, ça pose plein de problèmes éthiques même. Et alors, je te dis ça parce qu'au début, on présentait un peu ça comme ça. On parlait d'extraction de cerveau. On va extraire les cerveaux et les mettre à disposition. Et je peux te dire qu'on s'est fait jeter de réunion quelques fois parce que les gens, ça leur fait très peur. Ils se disent, s'il y a une copie de moi qui existe quelque part, ils vont me virer. Donc, nous, on fait pas ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille dans une direction pour un cas donné. Par exemple, je peux pas faire une copie de ton boss qui réagirait à comme réagirait ton boss sur tous les problèmes. Par contre, je peux faire une copie de ton boss, une IA, nourri par les expériences de ton boss qui te donne des conseils sur tes problèmes de recrutement. Tu vois, parce que ça, c'est un domaine délimité, donc on peut aller chercher plein d'expériences là-dessus et le faire agir à peu près comme réagirait ton boss. Et donc, avoir une copie de ton boss, de ta CEO, de peu importe, c'est fou. Parce que non seulement tu as les bons conseils que la personne te donnerait, mais en plus, et c'est ça qu'on voit quand même qui est hyper intéressant, c'est que tu n'as aucune gêne à demander. C'est facile de poser la question. Et en plus, c'est facile de décrire la situation en détail. Tu ne peux pas demander à la CEO de ta boîte de lui dire « Ok, assis-toi avec moi pendant 3 heures et je vais t'expliquer tout l'historique du problème et on va lire ensemble tous les documents, tous les emails et tout pour que tu me répondes vraiment ancré dans ma situation. » Mais par contre, tu peux le faire quand c'est une copie numérique. L'IA, elle est patiente, elle t'écoute. Et elle peut processer tes 300 pages de documents en 20 secondes en plus. Donc, ça a un gros impact. Et presque, je dirais que c'est mieux que d'avoir ton boss en vrai. En tout cas, c'est un usage différent. Et alors attention, je précise que ça pousse personne à virer ton boss réel. Au contraire, les experts qu'on utilise pour modéliser, pour capter l'expérience, les gens se rendent compte qu'ils ont encore plus de valeur pour la boîte qu'avant. Et donc, personne ne va les virer. Voilà, je dis ça pour rassurer, c'est mon disclaimer de personne n'a été viré. Grâce à nous, au contraire. L'expérience qui parfois n'était pas valorisée, parce que l'expérience, c'est la matière première la plus sous-exploitée dans les boîtes. Mais parce que parfois, elle n'est pas visible. Comme on ne peut pas la capter, on ne peut pas la stocker, on ne peut pas l'injecter, les gens, ils se disent, bon, il est là, bah oui, lui, ça fait longtemps qu'il est là, bah, c'est vrai que tout le monde va le voir pour machin. Mais quand explicitement, tu extrais, tu dis, voilà, ce mec-là, il a énormément de valeur, il a énormément d'historique. Sans lui, on aurait beaucoup de problèmes. Tiens, on va capter son expérience pour le démultiplier. Ben, ce mec-là, c'est vraiment... Il est encore plus valorisé qu'avant.
C'est une question qui me vient en t'écoutant. Comment vous faites ? Parce que j'imagine que tu donnais l'exemple du CEO sur l'aspect RH, où tu as entre guillemets une sorte de monde un peu fermé où bah, tu ne lui as pas demandé de tout connaître, mais juste comment répondrait telle personne sur tel sujet bien précis, bien délimité. Et comment vous faites pour faire apprendre entre guillemets l'outil, ou en tout cas l'améliorer ? Est-ce qu'il y a une sorte de feedback loop que vous avez avec l'expert où il va dire bah, en fait non, j'aurais pas répondu comme ça, ou j'aurais plutôt répondu comme ça, pour justement l'affiner au fil du temps et faire en sorte qu'il soit encore plus proche de ce que répondrait vraiment la personne, ou vous le faites pas ?
Oui, alors carrément. Mais en fait, même le système est monté pour ça. C'est-à-dire qu'au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des simulations de cas inventés. Et donc, on disait, OK, face à cette situation-là, comment tu réagirais ? Ah, tu réagirais comme ça, OK. On le fait 50 fois et ensuite, on commence à le tester avec des cas réels et on ajuste. On compare la réponse de l'IA et la réponse de l'expert, et on ajuste. Mais là, maintenant, de plus en plus, ce qu'on fait, c'est de présenter aux experts des cas réels. C'est-à-dire de dire, tiens, il y a une propale en cours en ce moment pour telle boîte, voilà la situation, qu'est-ce que tu nous dis sur cette situation-là ? Et le fait de faire ça, déjà, ça fait que la réponse de l'expert est toujours la bonne, et quand tu la stockes, elle est toujours très précise parce que c'est sur un cas réel. Et aussi, ça donne plus aux gens envie de donner leur expérience partagée parce qu'ils savent qu'ils le partagent, ils savent pourquoi ils le font, ils savent pourquoi ils sont en train de te parler, en train de te raconter leur expérience. C'est pour la propale qui est en cours et qui va aider tel et tel collègue.
Justement, en parlant de propale, tu en as parlé tout à l'heure dans la façon dont vous travaillez. Alors, on précisera, mais quand on pose une question justement sur les propales, l'approche que vous avez, c'est pas juste de répondre une. D'apporter une réponse monolithique, mais plutôt travailler sur des scénarios, proposer des approches qui vont être creusées. Et ce que j'ai compris là de nos échanges aussi, il y a un des enjeux dans la montée en compétences, c'est que bah, la personne, on ne lui donne pas une décision ou quelque chose de pré-mâché, mais on lui permet de, en fonction de son expérience, de ses connaissances, de ses compétences, de choisir ou de challenger un scénario qui lui serait proposé. Et c'est quelque chose d'un petit peu de cyclique où on va mettre ce qu'on pense, la machine va nous challenger. Comment ça se différencie selon toi de l'approche plus classique des LLM ? Et j'en profite parce que tu en as parlé tout à l'heure et c'est aussi pour ça que je te connaissais de cette question de la cellule rouge hein, que j'aimais bien où tu mettais en place des personnes pour challenger des décisions, des réflexions. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez essayé de faire aussi dans votre modèle, et qui, je trouve, dans les LLM classiques, quand tu les pousses un peu à essayer justement de te challenger sur des réflexions, ça manque un petit peu d'intérêt, je trouve, parfois.
Tu parles de cellules rouges. Je ne vais pas tirer la couverture à moi en disant, voilà, j'ai inventé ci, j'ai inventé ça. Je vais parler un peu de la source, de l'origine de la cellule rouge plutôt, parce que ça parlera à plus de monde. Moi, le modèle de décision que je trouve sain, en 2025 en tout cas, c'est celui du Brain Trust de Pixar. L'idée chez Pixar, c'était le leader d'un film. Donc, je suis en train de diriger Toy Story et j'ai un problème dans mon histoire. Mon histoire ne marche pas parce que j'avais prévu de faire comme ça, mais en fait, on n'arrive pas à faire le plan, on n'arrive pas... En tout cas, voilà, j'ai un problème, j'ai un bug dans mon film. Et bien, ils pouvaient convoquer les dirigeants de Pixar, tous les gens qui avaient le plus d'expérience, et leur poser des questions et recevoir leur avis et leur expérience pendant 2 heures. Mais à la fin, c'était pas... C'est pas parce qu'il y a le CEO de Pixar dans la pièce qui avait dit « Moi, je pense que tu devrais faire ça » que le gars devait repartir et faire ça. C'est lui qui prenait la décision. Et les conseils étaient que des conseils. Et moi, je trouve que ce modèle-là, c'est le bon modèle. Parce que, par exemple, on va prendre un autre exemple. Il y a un des trucs qu'on fait, c'est accompagner les commerciaux sur le développement de grands comptes. Donc, par exemple, ils ont un compte où ça marche un peu, mais ça marche moins que dans les autres. Ils veulent faire x10 là-dessus parce qu'ils sentent qu'il y a du potentiel. Ben, on fait le plan avec eux en utilisant l'expérience de tous les sales qui sont experts de leur boîte. Et donc, ce commercial, tu pourrais lui dire, bah, tiens, basé sur l'expérience de tout le monde, voilà le plan optimal généré par l'IA, maintenant, va l'exécuter. Mais déjà, t'es pas sûr que ce soit le bon plan. Et même si c'est le bon plan, le mec, il va pas se sentir acteur du tout, il va avoir la motivation à zéro. Et à la limite, même s'il se sentait motivé quand même, ben, tes vendeurs, ça devient des machines à exécuter. Et le niveau d'expertise, il tombe à zéro en 6 mois. Donc, nous, comme la cellule rouge, comme Brain Trust Pixar, on propose toujours plusieurs axes. Pour développer ton compte AXA, ben, tu peux faire la même méthode que ce que ta CEO elle a fait quand elle a lancé la boîte chez Air France, ou bien ce que ta N+1 a fait chez Sephora. Tu vas les ancrer dans des... Tu vas leur proposer plusieurs variantes, plusieurs stratégies, et c'est eux qui décident. Eux, ils connaissent les clients, ils connaissent leurs forces, parce que c'est aussi ça qui compte, hein, quand tu proposes des plans à quelqu'un, c'est est-ce que ça s'appuie bien sur mes forces? Est-ce que c'est dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller? Et eux, ils ont leur instinct, et c'est eux qui tranchent. Et en écoutant, en choisissant et en exécutant, ils apprennent, ils progressent. Mais nous, on leur injecte l'expérience dont ils ont besoin, et ça fait que ils ont 3 ans d'expérience, mais ils se comportent comme s'ils avaient 30 ans d'expérience, parce qu'ils ont vécu l'historique de tout le monde. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Alors bien sûr, forcément, tu vas me dire, heureusement que j'ai une conviction forte là-dessus, mais moi, je vois des boîtes qui sortent des produits qui font l'opposé de ça. T'as une IA qui te dit, ouvre le panneau bleu, trouve le bouton vert et appuie dessus. Et s'il y a encore des vibrations après ça, bah, tu règles la vis numéro 12. Et tes salariés, ça devient des exosquelettes débiles qui exécutent les ordres de l'IA. Le jour où il y a un problème, ils sont lobotomisés, ils serviront à rien. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il faut donner des choix. Il faut s'en servir comme un amplificateur qui donne des choix. Et comme ça, des équipes, elles continuent à progresser, monter en expérience, et elles ne posent pas leur cerveau. Et c'est pour ça que dans les centrales nucléaires, les pilotes de centrales nucléaires, ils pourraient être quasiment entièrement automatisés. Mais ils ne le font pas. Parce qu'ils savent que le jour où il y a un incident, il faut des mecs qui savent piloter la centrale. Un incident qu'on n'a pas prévu. Et donc, tu pourrais éliminer 95% des tâches, 95% de ce qu'ils font et faire des économies. Mais le jour où tu as un vrai incident, non, tu as un vrai pilote aux commandes.
Un usage que j'aurais bien aimé creuser un tout petit peu avec toi, et puis ça permet aussi d'avoir un peu ton regard un peu plus prospectif. Mais vous l'avez, alors moi, de ce que j'avais compris, vous l'avez lancé au départ en vous disant, on va en interne essayer de capter l'expérience, l'expertise d'une personne, typiquement le responsable commercial ou les commerciaux pour travailler sur les propals. Mais il y a aussi amener l'expertise d'un expert extérieur avec qui on a envie de travailler ou qu'on aimerait amener. Et bah, l'expert en question, il peut se retrouver aussi à avoir à disposition, alors je mets des guillemets, avec son propre cerveau, mais en tout cas avec une partie de son expérience, de son expertise. Et j'imagine que ça doit être quelque chose d'assez, je ne sais pas, c'est amusant, mais en tout cas étonnant. Et moi, quand j'entendais ce que tu me disais, moi, je me projetais pas mal sur déjà un, j'imagine que toi, travailler avec une version de toi-même, ça doit être hyper stimulant parce que ça te permet de voir des choses différemment, de creuser certains sujets plus profondément. Et donc, il y a cette première question de quel impact ça a sur les experts et comment eux, ils voient le truc. Et la deuxième question que je te pose comme ça, je te balance tout et puis tu me répondras, c'est une fois qu'on a ça, et peut-être un outil qui va être amené à s'améliorer, comment ça peut impacter les métiers d'expertise? Tu vois, je ne sais plus si c'est Sam Altman qui parlait des solo billion dollar companies où tu allais avoir des mecs tout seuls qui allaient faire des compagnies à 1 milliard. Est-ce qu'un expert, un mec hyper bon, tu vois, tout à l'heure on parlait du mec en compliance, on peut l'imaginer, demain il est tout seul, il a son outil, son cerveau qu'il a mis dans un LLM, le truc il marche nickel parce que ça fait 3 ans qu'il l'a entraîné, il continue à l'entraîner et il se dit, bah tiens, plutôt que je vais aller le vendre en mode SaaS à des clients, de toute façon, ils n'ont plus trop envie de me payer 500 ou 1000 ou 2000 euros de l'heure parce qu'en plus, j'ai un outil. Et en plus, moi, c'est cool, j'ai des revenus récurrents qui me demandent moins de temps et je peux me concentrer sur d'autres trucs. Donc, je vais peut-être un peu loin, Mais en tout cas, moi, ça me questionne. Et avec l'expérience que tu as sur tous ces sujets-là, comment toi tu vois l'impact sur à la fois le mec qui joue avec ses connaissances, avec un outil qui lui renvoie sa façon à lui de penser, d'envisager les problèmes, et aussi l'impact que ça peut avoir sur les métiers de l'expertise demain?
Je vais te répondre déjà sur la première question parce que ça, je sais te répondre. La deuxième, elle est plus difficile. Mais ce qui est marrant, tu as dit marrant, ce qui est marrant quand tu injectes de l'expérience avec une IA, c'est qu'il y a très peu de frottement. Mais il y en a quand même. Et donc, je te donne un exemple. Là, tout à l'heure, je te disais le commercial qui gère un gros compte et on réfléchit à comment faire x10 sur ce compte. Imagine, on te sort une idée de Bernard Tapie, l'idée des dominos. Bernard Tapie faisait ça, il rachetait une première boîte, et avec le cash de la première boîte, il rachetait une deuxième, etc., etc. Donc c'est cet effet domino. Si tu lâches cette idée comme ça au commercial, il y a un frottement de dingue. Le mec, il va se creuser la tête pendant 20 minutes pour trouver c'est quoi le rapport entre ce que faisait Bernard Tapie à racheter des boîtes avec le cash des suivantes et avec mon compte client. Mais l'avantage de quand tu fais ça avec Madeleine, c'est que elle a aussi le contenu de tout le CRM. Donc, elle sait réduire le frottement, elle sait te dire, ben, pour mettre en place cette idée de Bernard Tapie en pratique, ça veut dire qu'il faut, le premier domino, c'est le directeur de telle usine, je le place à tel endroit et c'est lui qui va me débloquer et me placer mes 20 consultants suivants. Par exemple, si ce que tu vends, c'est des consultants. Et donc là, il y a moins de frottement, parce que l'IA, elle a tout le contexte et tout, donc elle peut non seulement te donner l'expérience, mais ensuite te donner l'expérience dans ton contexte. Mais il y en a quand même un peu du frottement. Faut quand même se placer et se dire, OK, Bernard Tapie, là, blablabla. Par contre, si tu es l'expert, si c'est ton propre expérience qui est dedans, par exemple, si tu rappelais cette notion à Bernard Tapie, ben lui, il l'avait vécu dans sa chair, donc il y a zéro frottement. Et c'est ça qui est fou. Donc quand les experts ils jouent avec leurs propres expériences, c'est là où il y a le truc le plus puissant, parce que tu vois leurs yeux qui s'illuminent toutes les 10 secondes. Parce que instantanément, quand ils voient une expérience apparaître en réponse à un problème, ils la comprennent tout de suite. Et c'est comme si tu avais. Au début, on avait pensé aussi à des idées de noms de boîtes là comme ça. C'est la pancine dans Harry Potter. Tu as tous tes souvenirs et tes expériences devant tes yeux, tu joues avec, tu les mélanges, tu fais des liens. Et moi, je le fais tout le temps et c'est génial. Enfin, c'est une sensation incroyable. Donc, voilà, pour répondre à ça, voilà ce que ça permet. Ça permet de jouer avec zéro frottement. Donc, c'est incroyable. Pour la deuxième partie, je ne sais pas si ça va dévaloriser l'expertise ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir une première vague où les experts ils vont devenir bien meilleurs, bien plus rapides, bien plus puissants. Parce que ben, voilà, avoir accès à un deuxième cerveau qui a toutes tes expériences et que tu peux utiliser instantanément, c'est enivrant comme sensation. Et je ne peux pas vraiment prévoir plus loin que ça, mais voilà. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une première vague où les experts, et c'est ce qu'on voit dans les boîtes, hein. Bien sûr que les juniors s'en servent, bien sûr que ça permet d'avoir de l'impact sur des trucs et tout, mais. Les gens qui peuvent jouer eux-mêmes avec leur propre expérience et l'expérience des gens qui sont venus avant eux. Parce que quand tu vas capter l'expérience, tu vas capter l'expérience des gens qui sont là, tu vas essayer de capter l'expérience avec un peu d'historique. Et donc les experts, quand ils ont accès à ça, ils se régalent. Encore plus que les juniors.
J'avais une question à plus sur toi et ton processus d'apprentissage, parce que tu as, alors, sauf si j'ai mal lu ton CV, mais je pense pas que tu sois un geek au départ, ou tu as plutôt un profil où tu as fait beaucoup de conseils, même, et tu t'es beaucoup auto-formé sur les aspects techniques, sur l'IA générative. Ça m'intéressera un peu que tu puisses nous présenter rapidement un peu comment tu as fait ton processus d'apprentissage justement pour développer tes compétences là-dessus. Et selon toi, comment l'accès à des outils d'IA générative aujourd'hui, il transforme ou il va transformer la façon d'apprendre et ou de développer un business? Enfin voilà, un peu ces deux questions. Toi, ton processus d'apprentissage sur ces outils-là, et j'imagine que tu as utilisé ces outils pour apprendre. Donc comment tu as l'impression que ça fait évoluer la façon d'apprendre?
Alors, c'est une bonne question parce que moi, j'adore apprendre des trucs et j'ai appris plein de choses random. Et ma femme, même les enfants maintenant qui grandissent un peu, ils se moquent de moi là-dessus. J'ai appris à cuisiner des recettes de resto 3 étoiles. J'ai appris à écrire en arabe, le jiu-jitsu brésilien. Enfin, donc j'ai testé plein de techniques pour apprendre plus vite parce que j'ai eu pas mal l'occasion de le faire. Et là, récemment, de monter en compétence sur l'IA et de monter en compétence surtout sur Python, parce que je m'en sers pour coder, ça change tout. Si on prend l'exemple de Python, parce que je trouve que c'est celui qui illustre le mieux, je m'en sers pour coder, mais je partais de zéro. C'est-à-dire que je n'avais jamais codé de ma vie. Et tu peux lui demander de te générer du code. Voilà. Alors, il faut avoir le cœur bien accroché au départ, parce que pour débugger en tant que débutant, c'est quand même un gros sujet. Hein. Les gens qui disent « Ouais, maintenant, avec le... je suis parti de zéro en code et je code des applis, faut... ouais. faut y aller quand même. » Mais bon. Mais surtout, ce que tu peux faire, c'est tu peux lui filer ton code en entier. T'as codé une app, t'as codé un truc, tu lui files ton code en entier, tu lui dis « Ok, comment est-ce qu'un dev senior, il organiserait son code différemment ?» C'est quoi, les... quand tu vois mon code, quelle notion théorique j'ai pas et il faudrait que j'étudie ? Et ça, c'est fou. Parce que d'habitude, dans l'apprentissage, tu as toujours ce conflit entre apprendre just in case, donc j'apprends la théorie, j'apprends les notions, puis peut-être qu'un jour, je m'en servirai, et apprendre just in time. J'essaie de bourriner, je code, machin, j'étudie zéro théorie, mais très vite, je me retrouve bloqué. Et en fait, je commence à avoir une dette technique de plus en plus grosse et j'abandonne parce que, voilà. Mais là, avec TIA, tu peux avoir l'approche de bourrin qui est la plus efficace, hein, de dire, OK, ben, je m'en sers concrètement. Et au fil de l'eau, je demande à mon IA, qu'est-ce que je loupe? Quel point théorique je pourrais aller étudier pour me débloquer? Et donc, tu peux aller 3 à 4 fois plus vite, je pense.
OK, donc à la fois la pratique et la théorie en même temps, en fait.
C'est ça. Pour les gens qui aiment faire de la pratique et mettre de suite les mains dedans et tout ça, c'est dingue parce que tu te fais jamais rattraper par ta dette technique. Parce qu'il va te dire, ah bah tiens, oui, bah t'as pas étudié la notion de classe. Donc étudie la notion de classe pour Python, voilà ce que ça donnerait par exemple dans ton code. Et donc t'apprends beaucoup plus vite que si tu faisais 6 mois de cours théoriques sur Python et qu'ensuite tu commences à coder.
Et juste une précision, parce que tu disais, tu donnes ton code et après il va t'aider à voir peut-être les notions qu'il faudrait que t'apprennes pour être capable de le débugger ou comment un expert du sujet organiserait le code. Ça veut dire que quand même, au départ, tu as du code. Est-ce que tu es parti bille en tête où tu l'as dit « code-moi une app » et après, il t'explique ? Ou est-ce que toi, comment t'as processé là ?
Bah, tu prends ton courage à deux mains et tu lui dis « Tiens, voilà ce que je voudrais faire en Python. » OK, parce que tu sais que Python, c'est le langage de l'IA et tout, donc tu te lances là-dessus. Tu lui dis ça. Lui, il te sort du code. Et là, tu te dis « Ok, mais en fait, qu'est-ce que je fais ? » Donc, j'installe VS Code. Moi, ensuite, maintenant, j'utilise Replit. OK, mais en fait, je sais pas ce que c'est le Command Shell. Donc, il t'explique tout. Donc, tu lui poses des milliards de questions. Tu regardes un peu des tutos. Tu te débrouilles jusqu'à avoir un code assez conséquent pour là avoir des questions un peu plus raffinées, de dire, OK, cet outil-là, je m'en sers dans plusieurs bouts de code différents. Est-ce que je devrais le mettre en fonction, en classe, en tout ça ? Donc oui, mais au début, j'ai passé des semaines à m'arracher les cheveux sur... Et ma femme est dev en plus, donc elle rigole beaucoup, mais sur le JSON et sur tous ces trucs-là qui posent des problèmes. Mais quand même, l'IA, non seulement elle te le génère, mais en plus elle te fait réfléchir dessus. Donc c'est beaucoup plus rapide que si j'avais fait du Python, si j'avais appris Python il y a 5 ans.
Et justement, on parle d'expérience pas mal depuis tout à l'heure. Là, sur cette expérience précise de Nicolas qui apprend à coder en Python avec une IA, avec l'expérience que tu as acquis et la façon dont tu as fait, si tu devais le refaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment ?
Je pense que je pensais, c'est comme quand tu as des enfants, je me souviens avant d'avoir eu ma première, maintenant j'en ai 3, donc j'ai du recul là-dessus. Je pensais que le truc difficile, c'était les choses techniques. C'était donner le bain, changer les couches et tout. Et ensuite, j'ai compris qu'après la 4e couche, donc on regardait des vidéos YouTube avant avec ma femme sur OK, comment tu changes la couche et tout. Enfin, c'était surtout moi, parce que ma femme, elle me disait, non, mais ça, je pense que c'est une connerie, mais bon. Et donc, Python, c'est, et en fait, le vrai problème, c'est pas du tout ça. Parce que changer une couche, c'est un problème, tu peux regarder longtemps. C'est plutôt comment tu gères l'attitude, le rythme, tout ça. Et en Python, je pensais que le problème, c'était le code. Et en fait, souvent, mon expérience me dit que c'est pas le code, c'est comment tu l'implémentes, en disant, OK, l'interaction entre, ah oui, mais Replit, il a pas toujours la même IP. Donc, c'est ça, en fait, qui pose un problème, c'est pas le code. Donc, ce que je ferai maintenant, et parce que les outils ont évolué aussi entre-temps, c'est que j'utiliserai le modèle de Google qui te permet de regarder ton écran. Il voit ton écran en live et tu peux lui poser des questions à la voix. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas tellement de code, c'est l'infrastructure qu'il y a autour du code. Ah ben oui, ça ne s'exécute pas parce que ton fichier ne s'appelle pas de la bonne façon. Et donc, c'est ça que je ferai différemment, c'est que je n'aurai pas juste l'IA qui j'envoie mon code et il me répond, j'aurai l'IA qui me regarde en train de coder et qui me dit, mais attends, mais là, tu fais un truc débile. Par exemple, je ne savais pas que sur Python, tu pouvais juste, en faisant flèche du haut, ça retape la dernière commande que tu as déjà tapée dans ton shell. Et donc, je tapais tout le temps Python 3 main.py. Et en fait, hein, j'ai découvert par hasard que tu pouvais juste faire commande O et ça le retapait. Ben, l'IA, elle m'aurait dit ça tout de suite. Elle m'aurait dit, mais enfin, arrête de taper des commandes hyper longues à la main. Tu n'as pas besoin de les copier-coller non plus. Tu peux juste faire flèche du haut et ça revient. Quoi.
On arrive à la fin là, de notre échange. J'avais une dernière question pour toi, un peu plus prospective. Donc, tu l'as dit rapidement, mais avant de devenir entrepreneur, en tout cas de monter cette boîte, tu as eu pas mal de casquettes et notamment, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais consultant en stratégie pour des dirigeants. Et tu disais que tu continues à bosser avec des cabinets de conseil, alors avec une autre casquette aujourd'hui. Avec ce regard-là, comment toi tu vois l'évolution un petit peu du métier de conseil dans les années à venir au regard des évolutions actuelles un petit peu de l'IA? Et comment l'IA, selon toi, va bouleverser ou pas d'ailleurs ces métiers?
C'est un très bon truc. Je n'ai pas la réponse définitive à ça. Je ne suis pas prospectiviste non plus, mais. Ce qu'on voit déjà, et alors maintenant je bosse avec des boîtes de conseil en les aidant à gagner plus de propal. Donc c'est pas moi qui les conseille, ils savent très bien faire, mais déjà ils me disent, ben ouais, il y a des clients qui disent, ben nous on veut plus payer les juniors. Parce que les juniors, on sait très bien qu'en fait c'est de l'IA qui fait les trucs, donc on veut des seniors et c'est tout. Et quand je réfléchis à ça, moi ce qui me parle, j'ai commencé à bosser en finance en début de carrière, et il y a déjà eu cette phase de transition en finance avec l'arrivée de l'ordinateur. En 1970, les comptables, ils avaient un grand livre des comptes sur lesquels ils écrivaient toutes les transactions. Donc, ils ne s'amusaient pas à faire de l'analyse poussée. Ils n'avaient pas Excel, ils n'avaient pas SQL, ils n'avaient rien. Donc, ils se mettaient dans un fauteuil avec un cigare avec le CEO et ils discutaient de, voilà, bah, vu les dépenses qu'on a, vu le rythme et tout, je pense qu'on va atterrir à peu près vers là. Et puis, c'était à 100 millions près. Et cette discussion, elle était bien. Et ensuite, en, je sais pas, 1990, 2000, il y a les outils qui commencent à arriver. Et moi, quand je bossais, quand j'avais fait un moment un peu de contrôle de gestion, strat, pricing, machin, et on avait, pour chaque filiale, 1 million de chiffres par mois pour faire le plan sur 5 ans. Et donc, tu as un niveau de granularité qui est incroyable. Et les mecs, en 1970, ils auraient halluciné du niveau de précision. Tu prédis pas juste où est-ce qu'on va atterrir en résultat net, mais tu prévois tout le capex, tout très bien. Mais en vrai, la discussion, elle avait plus lieu. Ou en tout cas, elle avait lieu, mais elle n'était pas de bon niveau. Mais alors qu'on avait des millions de chiffres en plus. Parce que la quantité, dans notre époque actuelle, c'est un proxy de la qualité. C'est de dire, ah ben attends, si j'ai énormément de chiffres, c'est que je tiens très très bien mon business. Sauf que maintenant, on s'aperçoit que l'empereur est nu. La quantité, elle n'a plus de valeur, parce que le LLM, il peut te faire ça en 2 secondes. Tu veux générer 1 million de chiffres, mais attends, tu veux en générer 1 milliard, ben il n'y a pas de problème. Et donc, je pense qu'on va revenir à la discussion. Revenir à cette discussion, on se met dans un fauteuil et on discute vraiment de où est-ce qu'on va atterrir en discutant des drivers business. Et je pense que ça va être pareil pour le conseil en stratégie. On va revenir à la discussion. Tous les benchmarks, toutes les analyses pas top qui ont été faites par des juniors, ben, les clients, ils vont plus y donner de la valeur. Ça va se faire automatiquement. Mais la discussion centrale, le truc de « Ok, c'est quoi vraiment le problème dans ton business ?» C'est quoi les solutions qu'on pourrait mettre concrètement? Ça va être ça le cœur de la valeur. Et j'ai vu que tu avais fait un podcast avec un spécialiste des échecs. Et je pense pas mal à ça en termes de parallèle, mais je pense pas que l'humain va pouvoir battre l'IA. Dans 1 an ou 2, tu mets un humain face à une IA sur un problème de conseil en strat. Je pense que l'humain, il va se faire exploser. Par contre, est-ce que le futur, c'est un humain qui pilote une IA? Et là, c'est un peu la situation, le jeu d'échecs en 2015. Le meilleur joueur du monde, c'était pas une IA, c'était pas un humain, c'était un humain qui pilotait une IA. Mais peut-être que l'IA va être à un tel niveau au-dessus des humains que l'humain aura plus de sens. Et ça, voilà. Ça, je sais pas encore. Mais en tout cas, dans un premier temps, je pense que on va revenir au centre. On va revenir à c'est quoi la discussion de cœur. Envoie-moi ton prompt. Qu'est-ce que tu penses de ma boîte et de ma problématique business en 2 paragraphes? Je pense que c'est ça qui va changer dans les métiers de conseil.
Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir répondu à mes questions. J'espère à bientôt, alors.
Eh ben, merci pour les questions.
L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.